Vous êtes toujours sur Globule Radio avec les Super Canards.
Bonjour, je m'appelle Antoine et je vais vous présenter la résistance à Chamonix. En 1943, il crée le service obligatoire STO. Beaucoup de réfractaires au STO sont entrés dans la résistance. À Chamonix, ils se cachent dans les montagnes. Beaucoup d'entre eux travaillent sur le chantier du téléphérique de l'Aiguille du Midi, sur la partie gare des glaciers et col du Midi. En automne 1944, le col du Midi sera le théâtre d'une des dernières batailles des Alpes, mais aussi le plus élevé, 3375 mètres d'altitude. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 1944, un commando d'Alpenrager, dont André Lechmer, vainqueur de la face nord de l'Elgar, tente de prendre le refuge. Les maquisards sont surpris, se défendent, mais en vain. Il y a 4 morts. Henri Cox, chef de poste, François Cox, René Berson et Luciano Modiola. 8 maquisards sont faits prisonniers, dont Lucien Sieves. René Boson raconte que quand il remontait la pente au flambeau, passe le col et redescend vers le refuge Torino, il arrive au refuge et voit sur la terrasse une couverture. Il la soulève et là il voit un mort. Des traces d'éclosion sont visibles un peu partout et la porte est essoufflée. René Boson va prévenir bataillon du col du Midi. Le groupe part le lendemain, reprend possession des lieux, ramène les corps des Français. René Boson apprendra par la suite que quand il était parti une heure plus tard de Torino, il aurait été présent sur les lieux au moment du combat meurtrier vers 10h30. On lui raconta qu'un Allemand avait lancé une grenade à manche. En général, au bout de 10 secondes, elles explosent. Henri Cox, chef de poste, a rattrapé la grenade et la renvoya vers l'Allemand. Il la rejeta à nouveau vers Henri, qui a été tué. François Cox, René Barson et Luciano Modiola sont tués aussi. Durant la guerre, certaines familles de la vallée de Chamonix ont caché des juifs, par exemple. Aux pèlerins, Fernand et Camille Claret-Tournier ont caché Berce Sadowski chez eux. Elle est allée à l'école et une plaque commémorative a été posée en souvenir de l'école Jeanne d'Arc, en présence de son fils. Chamonix fut libérée le 17 août 1944. Juste après, nous allons vous faire écouter l'usine de la canaille. Et tout de suite après, le gars de l'usine, François Lachance.
Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas ou son casier, pose le cuss du casse-dalle, enfile sa blouse et s'assied. Enlève ses chaussures, met les chaussures de sécurité, prend séquence son cutter, quelques pièces pour le café. Il regarde l'heure, plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme à clé, gavé d'avance, rien d'y penser. Puis pas à pas, se dirige lentement vers sa machine. Regarde la mine des autres, fatigué mais content de quitter l'usine. Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente. S'il y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante. 21h pile, le gars lui souhaite bon courage. Ramasse ses affaires et file, le v'là face à l'ouvrage. Pas le temps de s'installer, deux pièces à contrôler. Emballer vite fait avant que deux autres prennent le relais. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Pour lui, le compte à rebours s'est enclenché. À peine le plancher foulé, 8 heures à tenir et pas question de flancher. Sinon c'est la porte. Des gars comme lui, y'en a à l'appel, profession, OS, comme il les appelle, dans les boîtes d'intérim, ouvriers spécialisés, ferme-la et trim, l'exploitation est officialisée. Subventionné par l'État, c'est sûr que ça fait cogiter. Façon l'une fait que ça de cogiter, même agité, pense à tout pour s'évader. Vois ces gosses gambadés, se rappelle du week-end dernier, des conneries du JT. Mère descend vite fait sur terre, son chef l'interpelle, à défaut de personnel, lui file du taf supplémentaire. A envie de s'occuper de son cas, lui refaire la déco comme celui qui lui a fait le contrat il y a 3 mois chez Adeco. Maintenant c'est lui fait de presse, plus de stress, il galope de poste à poste avec cette cadence qui l'oppresse. L'horloge qui l'agresse, il n'attend qu'une chose, 1h30, que vienne son heure de pause. séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Il boit que la dernière moulée. On vient le remplacer, quitte enfin l'atelier, t-shirt mouillé, dos cassé, grimpe les escaliers, va pouvoir pisser, se laver les mains, fissa avant de pouvoir les crailler. Dans le local, qui est tellement sale, quand en normal, ça aurait dû déclencher une lutte syndicale, mais que dalle. Depuis le dernier plan social, peur d'espérer mieux. On a vu à quoi ça mène de l'ouvrir dans cette PME, ça parle PMU à côté de lui. En face, les vieux un peu émus rêvent d'une issue pour avoir ce qu'ils n'ont jamais eu. Deux, trois conneries de sortie, dans 10 minutes c'est reparti. Fini sa gamelle, vite pour fumer la camelle, le cul posé sur le quai dehors. Son seul plaisir, apprécier le calme de la ville qui dort. Avant de reprendre l'effort, il écrase son mégo, rentre croise aussitôt. Son chef qui râle pour la minute de pause en trop. Le v'là nouveau, trop de moules qui s'ouvrent et se referment chaque 30 secondes chrono. Pour éjecter une pièce qu'il faut couper, séparer, jeter, poser dans le chariot. Et ouais, la nuit, le jour, ici c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie.
Vous êtes toujours sur Globule Radio avec les Super Canards. Maintenant, nous allons écouter la chronique d'Elouane.
Bonjour, je suis Elouane. Je vais vous présenter la centrale des Chavans. La centrale des Chavans, c'est quoi ? La centrale des Chavans est une centrale hydroélectrique qui fournit de l'électricité pour la ligne Le Fayet-Valorcine. Elle était installée en contrebas du pont Pélissier aux Ouches depuis 1900. En 1905, un agrandissement du bâtiment est fait pour produire du courant alternatif nécessaire à l'alimentation de la section en amont de Chamonix. En 1920, un deuxième bâtiment est construit pour EDF. Il sera fermé en 1962 car il y avait trop de travaux à faire. Un canal de fuite rejetait les eaux directement dans l'Arve. Plus tard, en 1943, la centrale a été abandonnée au profit d'EDF. La SNCF a mis à l'étude la modernisation de l'alimentation de la ligne Le Fayet-Valorcine. La guerre ne permit pas de faire évoluer ce projet, mais au lendemain du conflit, la nationalisation de l'énergie électrique allait ouvrir de nouvelles perspectives. Une solution fut trouvée dans le cadre de la construction de la grande centrale hydroélectrique de Percy, Électricité de France. Le captage à établir dans l'Arve, près de la gare des Ouches, devant privé. Les deux usines de Servoz et des Chavans. Celles-ci seraient désaffectées et les chemins de fer raccordés au réseau EDF. Le projet fut approuvé par la décision ministérielle le 14 septembre 1949 et la nouvelle station connectée en 1952.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail. Faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la
Bonjour. Aujourd'hui, la météo d'aujourd'hui, attendez, je vais regarder dehors. Il fait du très grand soleil, comme demain, vendredi. Il fait un très grand soleil, un petit peu de nuages par contre, et samedi, il pleut. Mais dimanche, il y a vraiment de l'orage, donc c'est dommage.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Pour nos frères, la haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creusent des nids, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Si tes compagnons dans la nuit animatée nous écoutent.
Vous êtes toujours sur Globule Radio avec les Super Canards. Vous venez d'écouter le chant des partisans et tout de suite nous enchaînons avec la chronique personnelle d'Eloane.
Bonjour, pour parler un petit peu de ma petite passion, les 125. Alors, il y a plusieurs types de 125, les scooters à deux ou à trois roues. Et en moto, il y a les motos custom, les motos de sport, les motos roadster, les motos trial. La moto 125 peut s'adresser aux débutants, les jeunes disposant du permis et les adultes pour passer en douceur de la voiture aux deux roues. Une moto 125 dispose d'une ou de deux places. La moto 125 est une véritable moto qui permet de réaliser des déplacements quotidiens ou des balades en ville comme à la campagne. Elle peut se conduire avec un permis A qui se passe à 16 ans ou avec un permis B à la double condition de l'avoir depuis au moins 2 ans et d'avoir suivi une formation obligatoire de 7 heures. La moto 125 permet de s'initier aux sensations d'une moto. Elle apprend aux motards novices à conduire un deux roues et à acquérir les réflexes et les sensations du deux roues. La moto 125 présente un petit gabarit et a de nombreux autres avantages, leur légèreté et maniabilité, ainsi le peu d'équipement, un prix abordable, elle est très compacte pour les embouteillages, le peu d'entretien, le peu de puissance. Un débutant n'a pas besoin d'aller très vite sur une moto, la moto 125 ne dépasse pas les 15 chevaux, soit 110 km/h. Cette vitesse suffit à rouler en ville, rouler à la campagne et emprunter les deux fois deux voies.
Merci beaucoup Eloane pour cette chronique. Maintenant, je vais vous parler de ma petite chronique personnelle, l'une de mes passions. Vous avez tous déjà entendu parler de cette course légendaire, les 24 heures du Mans. Cette course me passionne depuis des années pour son histoire. Les origines des 24 heures du Mans remontent à 1906, lorsque Sard remporte une consultation publique de l'automobile du club ACF pour l'organisation d'un Grand Prix. Dès 1906, Georges Durand, secrétaire général de l'ACO, évoque la création d'une course annuelle au Mans. Cette idée se concrétisera 16 ans plus tard. Lorsqu'ils se rencontrent lors du Salon de l'Automobile de Paris 1922, Georges Durand, Marcel Cagny et Charles Farou, patron journal de l'auto, embauchent tout d'abord l'idée d'une course de 8 heures pour éprouver les qualités et la solidité de l'automobile, une industrie encore naissante à l'époque. PDG de Rouge Wishworld, Émile Coquille suggère un grand prix d'endurance de 24 heures. Le samedi 26 mai 1923, 33 voitures s'élancent sur le tracé de 17 km pour la première édition du Grand Prix de vitesse et d'endurance des 24 heures. Coupe Rouge Wishworld, elle est remportée par une marque française, la Chenard et Wackler d'André Lachard et René Léonard, qui couvre 2209 km à 92 km/h de moyenne. Les 24 heures du Mans sont une compétition automobile d'une durée de 24 heures. Se déroulant en juin, le circuit des 24 heures, un circuit routier du sud de la ville du Mans qui emprunte une section du circuit Bugatti. Cette épreuve existant depuis 1923 est l'une des trois courses les plus prestigieuses au monde avec le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis. Le samedi 11 juin 1995, lors de la 23e édition de la course d'endurance, Mansell, la Mercedes-Benz 300 SLR de Pierre Lévet, décolle en percutant l'Austin Harley de Lance McLean à la fin du 35e tour. Elle quitte le sol à plus de 200 km/h et passe au-dessus du talus de protection. Explose en retombant sur le muret. Les causes du début jusqu'en 1955, les voitures de course étaient toutes équipées de freins à tambour, mais en 1955, Jaguar engage leurs voitures avec des freins à disque qui ont la particularité de freiner beaucoup mieux que les freins à tambour. La Mercedes de Pierre Lévet suivait la Jaguar de Lance McLean. Celui-ci pila devant un virage, suite de quoi la Mercedes de Pierre Lévet lui rentra dedans et décolla à plus de 200 km/h dans le public. Cet accident est toujours le plus gros accident du sport automobile.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesse le même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour c'est le chaos. Regarde-nous, le destin pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit. Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps se fait de l'aquaplaning. Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau. Certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être.
Rebonjour, je vais vous parler du jeu Elden Ring, car de 1 j'adore le jeu, et de 2 que c'est un jeu qui a eu beaucoup de ventes ces derniers mois. Elden Ring est un jeu développé par From Software qui suit la lignée des jeux Dark Souls, jeux de combat, et qui est dans l'action RPG, Role Playing Game. Elden Ring est sorti le 22 février 2022. Elden Ring se déroule dans le royaume de l'Entre-Terre, quelque temps après la destruction du cercle d'Elden et la dispersion de ses fragments, les runes majeures. Autrefois honoré par la présence du cercle et de l'arbre monde, le royaume est maintenant gouverné par les descendants des demi-dieux de la reine Marika l'Éternelle, chacun possédant un éclat du cercle d'Elden qui les corrompt et qui les empoisonne par leur pouvoir. Les personnages qu'on incarne est un sans éclat, un exilé de l'entre-terre qui a perdu la grâce du cercle, rappelé après l'éclatement qui doit traverser le royaume pour trouver toutes les runes majeures, restaurer le cercle d'Elden et devenir le seigneur d'Elden. Le jeu se joue à la troisième personne, vue du dernier personnage, qui se déroule dans un univers Dark Fantasy dans un monde ouvert très grand. Le jeu se joue avec des épées, haches ou massues pour combattre les ennemis et surtout les boss. Les boss sont des créatures très grandes, très puissantes, avec un très grand nombre de vies. Au cours de leur route, les joueurs rencontreront des PNJ, personnages non jouables, qui lui donneront des quêtes et des indices pour avancer dans le jeu ou d'autres PNJ qui les aideront dans leur combat contre les joueurs ou qui essaieront de les arrêter dans l'arcade. Vous pouvez jouer avec des amis ou d'autres joueurs. Elden Ring a plus de 109 boss uniques, avec certains boss répétés inclus. Le nombre total de rencontres avec les boss Elden Ring est d'environ 150. Pour finir Elden Ring, comptez entre 30 heures pour les plus rapides en ne faisant que la quête principale, et jusqu'à 200 heures si vous souhaitez prendre le temps d'explorer ou de finir l'entièreté des quêtes. Tout de suite, Eloane pour la météo.
Vu qu'il va faire très beau ce week-end, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ben d'ailleurs je vais vous la redire tout de suite la météo. Aujourd'hui il va faire du soleil, demain vendredi il va faire du soleil aussi, et samedi il va un petit peu pleuvoir, mais c'est pas si grave que ça, parce qu'on garde la bonne humeur, et dimanche il y a de l'orage. Et après, il y a comme événement qu'on pourrait faire ce week-end, il y a l'ouverture publique de l'Art au Seine, et après dimanche il y a la performance en immersion par le designer culinaire Perrine Bétain, événement en extérieur, et voilà.
Les super canards, vous pouvez de tout, mais pas de votre radio.
Pour la fête de la musique, il y a le Musilac et le mercredi 22 juin à 20h30 à Annecy. Ce sont de très grands humoristes. Décaféine lance une machine.
Merci Antoine pour cette information. Maintenant, je vais vous parler de la route Martigny-Chamonix. Après le rattachement de la Savoie à la France, Napoléon III veut visiter ses nouveaux territoires et vient dans la vallée de Chamonix. De sa venue, il fait un temps éprouvable. Effaré par le dangereux chemin muletier qui conduit à Chamonix, il décide de financer une route carrossable de Sallanches à Chamonix, route qui sera terminée en 1870. Très vite, les diligences assureront la liaison entre Genève et Chamonix. Une route nationale est tracée à Argentière, puis arrive dans la vallée de Valorcine, entre 1882 et 1886. Un nouvel itinéraire vers la Suisse est alors tracé, mais qu'en est-il de l'autre côté de la frontière en direction de Martigny? C'est à partir de 1825 que les Valaisans déposent un projet de route à char pour relier Martigny à Chamonix. On décide alors de passer par la Tête Noire. Le passage de la Tête Noire était connu de longue date comme un étroit chemin appelé le Mauvais Pas. Les voyageurs étaient contraints de descendre de leur mulet en raison de la difficulté du passage au-dessus du vide. Le percement d'un tunnel s'impose donc. Les travaux de la roche percée de Tête Noire sont réalisés entre 1827 et 1836. C'est à cet endroit que s'ouvre en 1834 une auberge, futur hôtel qui ne sera détruit que lors de la modernisation de la route en 1950. Le pont au niveau de la frontière suisse-sarde est refait à neuf en 1840. Cependant, en raison des gros frais engagés, les travaux de la route avancent lentement. C'est sur la musique The Zombies Cranberry qu'on se quitte. Revenez vite et n'oubliez pas, vous pouvez douter de tout, mais pas de votre radio.
Est-ce que je vous ai parlé de ma passion pour le ski? Ma passion pour le ski, ça fait plus de 2 ans que j'en fais beaucoup dans le Parion, donc je commence à connaître les pistes un petit peu par cœur. Donc je voulais poser une question à Antoine, est-ce que toi t'aimes bien le ski?
Oui, j'adore le ski.
Et après on va poser aussi la question à Ezekiel.
Alors bien sûr, j'adore le ski.
Vous faites quoi comme ski à peu près, dans l'année?
Bah toute la saison.
Aussi toute la saison.
Et vous faites de quel style de ski?
Tout.
Moi, je préfère quand c'est sur piste, voilà.
D'accord. Et maintenant, on va passer le micro à l'équipe de Globule pour faire une interview de notre professeur.
Amélie Mère.